Max Doré, Maxime Doré, bienvenue dans La Terre est plate. Aujourd'hui, on est le 27 février 2019, précisément, à la seconde près. bienvenue dans le show. Une grosse journée. Une grosse journée. Ça se peut que la politique américaine, vous en avez, c'est comme ça qu'on peut le dire, plein le cul. C'est, ma foi, très possible parce que on est envahi de ça depuis 2016, particulièrement. Avant ça, Obama nous était un peu plus favorable, les Canadiens. Nous, on est un peu plus de gauche, dans le fond, par défaut. Même les gens qui sont de droite, ici, comme le Parti conservateur, ressemblent un peu plus à Obama, là. Notre parti de gauche, à nous, ressemble pas à rien aux États-Unis. Même Bernie Sanders, oubliez ça, ni Cortez. Notre gauche, Manon Martin, c'est autre chose. Donc, on a entendu parler d'Obama, mais jamais autant de la politique américaine depuis Donald Trump. C'est constant parce que l'homme se met d'avant-plan aussi. Il est un homme très controversé. Entretient la controverse. Tweet énormément. Donc, met tout le temps de l'huile sur le feu de façon constante. Donc, aime l'attention que ça lui procure. Et donc, on en est du moins par défaut affecté parce qu'on en entend parler continuellement. Bon, vous l'êtes affecté dans votre quotidien par rapport aux nouvelles que vous entendez, aux tweets que vous voyez, aux tous les commentaires de gens qui sont pour ou contre sur les réseaux sociaux. Donc, vous en êtes envahi comme ça. Mais vous l'êtes aussi, vous avez un impact aussi dans votre vie beaucoup plus importante au niveau économique, au niveau des transactions que vous allez faire avec les États-Unis. Vous allez dire, oh, mais ça ne m'impacte pas, ça vous impacte. Quand vous allez au Walmart, quand vous allez n'importe où acheter quelque chose, vous aurez des conséquences de ça. Les États-Unis, c'est un pays énorme, une influence débile à travers la Terre. Donc, de dire que vous n'aurez pas de conséquences, dans le fond, là, c'est illusoire. Vous en avez, surtout quand un président est aussi intense que ça. Veut ramener Make America First Again. Donc, sort tranquillement de tous les deals qui existent pour pouvoir redonner tout aux Américains, ce qui est tout en son droit, tout en son honneur, entre parenthèses. Si tu veux, les États-Unis sont les États-Unis, ils nous doivent rien. Je parle techniquement, là, si on y pense, ils nous doivent complètement rien, ils ne doivent rien à personne sur la planète. C'est un peuple, c'est à eux, c'est leur pays. S'ils décident de se retourner dans leurs affaires puis de faire affaire entre eux-mêmes, c'est leur droit, là. Ça peut être chiant, ça peut être dérangeant, ça peut nous faire perdre du cash, ça peut nous en faire gagner, mais c'est leur droit. Maintenant, est-ce qu'au niveau futur, au niveau avenir, au niveau transaction, au niveau aide dans le futur pour X raisons, est-ce que ça va aider les Américains? Est-ce que les Américains vont pouvoir se retourner éventuellement, changer un peu de philosophie sans se faire envoyer chier? Je ne sais pas. On verra. À la base, avant de parler de la rencontre qui a lieu présentement, quand je fais l'enregistrement, il est 1h34, ça fait donc à peu près 4 heures, 3-4 heures que Michael Cohen est devant la Chambre américaine. Et je reviens à ce que je dis au début, c'est une importance capitale. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Je vais essayer de le vulgariser. La plupart d'entre nous savons que c'est énorme, mais pourquoi les petits détails et pourquoi c'est si énorme que ça? Ça continue, ça va continuer longtemps, parce que la façon de fonctionner, chaque membre de la Chambre a 5 minutes pour parler, donc ça peut être jusqu'à 7-8 heures, ce soir, facile, là. Ça va être très, très long. Et ils alternent, donc. Vous avez un démocrate qui pose une question, vous avez 5 minutes, donc il peut poser plusieurs questions, ou une, dépendant, il y a 5 minutes pour le faire. Cohen répond, par la suite, le modérateur qui est démocrate, transfère à l'autre personne de la Chambre, donc qui est un républicain. Donc, voyez-vous, on fait républicain, démocrate, voilà, on va. Donc, c'est ce qui se passe présentement, et Cohen est grillé là-dessus, et bon. Et bon, il y a deux choses. Vous devez savoir, avant que je donne mon interprétation, que je suis républicain de nature. Okay? Si j'avais à me présenter dans un parti politique aux États-Unis, je le ferais chez les républicains. Je suis plus de droite. Je suis quelqu'un qui qui aime l'autonomie. Je suis un autonomiste, un peu comme l'était André, ou l'est encore André Arthur. J'aime que les gens soient responsables de ce qu'ils font. Est-ce que je suis pour un État qui n'aide pas les gens qui sont pauvres? Non. Donc, je suis pas un de droite extrême, là. Je veux dire, j'aime la santé pour tous. J'aime que les gens aient accès à certains services. Je suis quelqu'un de hyper sensible pour les gens qui ont des problèmes. Je tendrai la main à n'importe qui sur Terre. Mais par défaut, je me rejoins plus, je me vois plus, je me comprends plus chez les Républicains. Et donc, j'aurais tendance, du moins avant Donald Trump, à être républicain. Donc, ça explique un peu, je pense, ça donne un peu de crédibilité à l'analyse que je vais faire. Parce que ce qui est en train de se passer, ceux qui ont intérêt à ce que Cohen parle, ceux qui ont invité Michael Cohen aujourd'hui à témoigner, ce sont les démocrates. Parce que les démocrates cherchent à éventuellement, il y a un jour ou l'autre, mettre à jour qui est, selon eux, Donald Trump. Cherche peut-être même à impeacher Donald Trump, qui est un terme qui veut dire si vous voulez enlever un président américain autre que par les élections, la seule façon de le faire, c'est un impeachment. Donc, c'est-à-dire que vous devez voter de façon majoritaire, non seulement à votre parti, mais la partie autre, que cette personne-là ne mérite pas d'être président américain. C'est la seule façon d'enlever un président. C'est ce qu'ils essayent de faire depuis un certain temps. Et Michael Cohen, une des formes qu'ils utilisent pour réussir ça, éventuellement de réussir à sortir Donald Trump de la présidence ou. Au pire des scénarios à leur image, à leur idée, au moins que les gens sachent et que les gens s'attendent à savoir, ou les gens savent qui est Donald Trump pour 2020, les prochaines élections qui s'en viennent. Donc, c'est les démocrates qui invitent Cohen, démocrates qui ont intérêt à ce que Cohen s'ouvre. Donc, la raison, c'est, voilà la raison pour laquelle je vous dis, avant de parler, avant d'expliquer ma compréhension, parce que j'ai rien écouté pendant 4 heures, c'est suffisant, je sais à peu près où ça s'en va, avant d'expliquer ce que j'en pense, de dire que techniquement, je ne suis pas pour Cohen, là. Je suis dans le côté des républicains, donc je suis pour quelqu'un qui est un peu sceptique par rapport aux démarches démocrates à la base. Michael Cohen est arrivé. Michael Cohen, il faut savoir que ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'avocat privé de Donald Trump. Ce n'est pas l'avocat à la Maison-Blanche, ce n'est pas l'avocat de son parti politique, c'est l'avocat personnel de Donald Trump. Ça fait 10 ans qu'il est son avocat personnel. Il l'a été parce qu'il a fait quelques petites choses pour lui dans certaines bâtisses par hasard de Donald Trump. Donald Trump a aimé son travail et il lui a proposé éventuellement, après une couple de petites choses qu'il a fait pour lui, de dire « Veux-tu être mon avocat personnel? » Cohen a accepté, a donc pendant 10 ans été l'avocat personnel de Donald Trump. Donald Trump est un homme particulier avec énormément de force et de faiblesse. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est pas quelqu'un qui laisse personne neutre. Donc, une personne qui a beaucoup de conflits dans sa vie. Ça ne veut rien dire parce que tout le monde qui a le moindrement de caractère ou qui a le moindrement d'idées à arrêter va être en conflit dans sa vie, là. Les gens qui aiment le statu quo, qui ne veulent pas vraiment être dérangés, c'est clair que vous n'avez pas de problème, mais en même temps, vous ne créez rien de particulier non plus, c'est un choix. Donc, Cohen a eu beaucoup de choses à faire à travers les années pour gérer la vie de Donald Trump. Donc, on connaît beaucoup sur Donald Trump. On connaît beaucoup. Ça fait 10 ans qu'il règle les problèmes. Imaginez, si je vous dis que ça fait 10 ans que je suis son. Je ne sais pas moi. Sa femme de ménage. Bon, j'aurais certaines infos. Peut-être que le matin, j'aurais vu certaines dames quitter la chambre. Mais ce serait pas mal ça. J'étais son cuisinier. Je pourrais vous dire qu'il mange comme un porc. Ou je pourrais vous dire qu'une fois, il y a une soirée où j'ai fait un repas pour une personne végétarienne russe. J'ai quelques petites infos. Mais ça reste à ce que c'est. Vous parlez de son fixer. Vous parlez de la personne qui va régler ses problèmes, les choses. Donc, à la base, quelqu'un qui connaît tout ce qui est wrong chez Donald Trump. Quelqu'un qui connaît dans les 10 dernières années tout ce qui a mal été. Ou tout ce qui a bien été. C'est la personne qui gère ça, son avocat. Quelqu'un qui a déjà fait service, faire affaire avec un avocat, vous savez à quel point l'avocat, il y a une relation entre les deux, de dire, regarde, bon. Alors, c'est une personne qui a énormément d'infos. Dans le passé, il a menti devant le Congrès. Donc, il est allé devant le Congrès, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois qu'il vient. La première fois, il a menti, il a protégé Donald Trump. Il a dit vraiment des choses qui ne sont pas avérées vraies. Donc, il ira en prison dans quelques temps. Il est prêt, il est condamné. Il ira en prison, je pense que dans 3 mois. Il va faire 3 ans de prison. C'est déjà fait comme. Ils ont retardé sa sentence justement pour qu'il puisse assister à certaines choses comme ça. Mais il ira en prison, Michael Cohen. Après avoir eu sa sentence, ce sont donc ses dires, je vous dirai ce que j'en pense après. Il a dit, regardez, je suis tanné de protéger Donald Trump. Je suis tanné, je vais payer le 3 ans de ma vie pour mes mauvaises décisions que j'ai prises pour cet homme-là. Je suis tanné de le défendre parce que j'ai différentes choses que je connais de lui qui sont dégueulasses, qui ne m'intéressent pas. J'en ai plein le cul. Si vous voulez me parler, je suis un autre homme, je vais dire ce qu'il y en est, j'en ai plein le cul. C'est ce que dit Cohen. Et c'est la raison pour laquelle les démocrates ont dit, OK, on te donne une deuxième chance. Tu as menti la première fois. Tu peux venir, viens t'asseoir ici, puis discuter. On en est là aujourd'hui. Et là, écoutez bien l'opening statement de Michael Cohen. Ceux qui ne parlent pas anglais, je le traduirai, très important. Voici ce que Michael Cohen a dit d'entrée de jeu par rapport à son ex-patron Donald Trump.
Mr. Trump is an enigma. He is complicated, as am I. He is both good and bad, as do we all. But the bad far outweighs the good. And since taking office, he has become the worst version of himself. He is capable of behaving kindly, but he is not kind. He is capable of committing acts of generosity, but he is not generous. He is capable of being loyal, but he is fundamentally disloyal. Donald Trump is a man who ran for office to make his brand great, not to make our country great. He had no desire or intention to lead this nation, only to market himself and to build his wealth and power. Mr. Trump would often say, this campaign was going to be the greatest infomercial in political history. He never expected to win the primary. He never expected to win the general election. The campaign, for him, was always a marketing opportunity. I knew early on in my work for Mr. Trump that he would direct me to lie to further his business interests. And I am ashamed to say that when it was for a real estate mogul in the private sector, I considered it trivial. As the president, I consider it significant and dangerous. But in the mix, lying for Mr. Trump was normalized, and no one around him questioned it. In fairness, no one around him today questions it either.
Incroyable. Donc, vous avez deux choses. Cohen, si vous ne le croyez pas, Cohen, si vous dites que c'est une personne qui a menti, si vous avez cette vision-là de la vie, de dire, écoutez, Cohen a menti auparavant pour lui, Cohen a déjà menti dans sa vie pour deux, trois prêts, il y a deux choses aussi qu'il a fait. Cet homme-là ne dirait jamais la vérité. Si c'est votre vision de la vie, je peux vous dire que vous devriez revoir votre vision de la vie. L'être humain n'est pas noir ou blanc. Okay? L'être humain est gris. L'être humain a différentes façons d'être. Il y a des tueurs en série qui revenaient chez eux et qui nourrissaient leurs enfants et qui s'en occupaient comme ça se peut pas, ce qui est absolument débile. C'est des gens qui tuent, des gens qui martyrisaient. Pourquoi ils faisaient ça? L'être humain n'est pas noir et blanc. L'être humain est capable du pire et des fois du meilleur. L'être humain peut changer d'idée. L'être humain peut agir différemment. Et l'être humain peut, à certains moments, être profondément honnête et à d'autres être malhonnête. Cohen, ici, dans son introduction, parle d'un homme sociopathe. Donc, si vous regardez la description d'un sociopathe, c'est ce qu'il décrit de M. Donald Trump. C'est très, très, très grave ce qu'il dit. C'est un homme qui est capable d'agir en honnête citoyen, mais qui n'en est pas un. Quelqu'un qui est capable d'être généreux, mais qu'il ne l'est pas. Quelqu'un qui est capable d'être honnête et d'être sincère et d'avoir une certaine relation avec ses amis, mais il n'est pas intrinsèquement, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il décrit, M. Cohen, c'est un sociopathe. Complètement. Un sociopathe est très dangereux. Quelqu'un donc qui peut imiter des caractéristiques humaines positives, mais qui les ressent pas, qui ne les a pas à l'intérieur de lui. Deuxième chose qu'il dit, c'est que M. Trump ne prenait pas au sérieux la campagne électorale au début, et dans le fond, le faisait comme un énorme pub, se vantait de dire que ça allait être la plus grosse publicité de l'histoire de l'humanité pour lui-même. Parce que les gens allaient parler de lui on et on et on et on, et qu'à la fin, n'étant pas élu, ça allait être une publicité débile, il pourrait éventuellement faire d'autres business, faire tellement de choses avec cette publicité-là. Ça aurait été le plus beau, la plus belle infomerciale de l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'il a dit à Cohen. Donc, c'est ce que Cohen donne comme idée de lui. Vous allez voir, on a d'autres choses tantôt qu'il dit, mais pour l'instant, c'est ce qu'il en dit. Si vous êtes comme ça, en disant, ben, qui dit vrai, il a déjà menti, ainsi de suite. Maintenant, dans la vie, si vous voulez vous faire une idée de quelque chose, comme le font les enquêteurs, comme le font les avocats, comme le font n'importe qui, je veux te faire une idée de quelqu'un. Tu as quelqu'un qui vient te voir, je donne un exemple. Vous avez un conjoint récemment, quelqu'un arrive et dit « Hey, ce gars-là, fais attention. Fais attention. Fais attention à ce gars-là parce que je l'ai vu, le mercredi, il va jouer à telle place, là, mais c'est pas ce qu'il fait. Puis des fois, il va dire à sa conjointe qu'il l'aime, mais il va en même temps cligner des yeux. Comprenez-vous? Et donc, si cette personne-là vient vous voir, vous dit tout ça, et que vous dites « Hey, toi, je te laisse, t'es un trou de cul », C'est un peu bizarre. Okay, vous avez un petit peu des problèmes émotionnels. Vous devriez un peu vous asseoir, prendre le temps et d'analyser ce qu'il dit. On ne peut pas arriver et dire, « Bah, regardons, c'est clair, c'est vrai, il me l'a dit. » Non, calmez-vous. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, quand quelqu'un nous donne des informations sur quelqu'un, c'est d'observer, de voir ce qu'on en connaît de la personne et d'essayer de connecter les liens. C'est aussi simple que ça. Quand les liens se connectent majoritairement, vous donnez de la crédibilité à ce qui vient d'être dit. Si ce que la personne vous a dit sur votre conjoint, il y a plein de choses qui se passent dans votre vie qui fit avec ce qu'il a dit, il y a des bonnes chances que ce qu'il vous a dit comme prévention ou comme message est vrai. Depuis que M. Trump est président en 2016, n'importe qui suit le moindrement l'actualité ou les nouvelles est capable de faire 280 000 liens avec ce que Cohen vient de dire. Il est facile et simple de prendre les informations qu'il donne sur sa vision de la vie, sa vision de l'amitié. Combien de personnes étaient ses meilleures amies quand il les a virées, les a ridiculisées et détruites sur Internet, sur les réseaux sociaux, en disant « il n'y a rien que pas dit sur ces gens-là qui étaient ses meilleurs amis la semaine avant ». Un des commentaires de Cohen, il est capable de faire semblant d'être ton ami, mais il ne ressent aucune amitié avec personne. Okay. Cohen parle aussi de sa vision par rapport au racisme, sa vision par rapport au pays, en disant que c'est un énorme commercial. Donald Trump a écrit des livres en disant qu'il a voulu être l'espèce de le génie derrière la philosophie de l'autopromotion. Donc c'est clair que pour lui, c'était une bonne autopromotion. Cohen dit des choses incroyables comme exemple. Il est allé voir, il a demandé à Cohen et il avait des preuves. Cohen a amené des preuves aujourd'hui, c'est-à-dire des chèques signés par Trump, ainsi de suite. Je ne rentrerai même pas dans les gros cas, parce que les gros cas vont s'en aller, savoir s'il fait une collusion avec les Russes. Cohen en dit beaucoup et ça sonne pas bien pour Trump. Mais juste pour des détails. Trump a demandé à Cohen d'aller menacer ses anciens collèges, de ne pas donner ses notes et ni ses résultats de SAT, donc c'est les résultats globaux de tes connaissances et de ton intelligence. Il a menacé de poursuivre s'il donnait ces infos. Là, pourquoi? Parce que ses notes ne sont pas bonnes. Et lui adore donner une image de génie. Ça ne fitait pas avec son image de génie. Cohen est donc dû aller menacer, dire si vous sortez ces notes, vous finissez en cours, on va vous ruiner. Okay. Dans le même étage que Donald Trump avait un milliardaire russe qui avait son bureau. Le même étage que Donald Trump, il ne payait pas le bureau. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'infos sur un personnage qui est, je vous le dis, je veux dire, demandez à n'importe quel psychologue ou psychiatre, faites une étude de 5 minutes, c'est un sociopathe, psychopathe. C'est très dangereux. C'est un être humain qui n'a aucune émotion, aucun feeling, aucun regret. Le seul importance sur Terre, c'est lui-même et son bénéfice. Ce que Cohen est venu dire aujourd'hui, malgré le fait que Cohen est Cohen, c'est énorme. C'est donner une image de quelqu'un très près du président par rapport à qui il est.
Mr. Trump is a racist. The country has seen Mr. Trump court white supremacists and bigots. You have heard him call poorer countries shitholes. In private, he is even worse. He once asked me if I could name a country run by a black person that wasn't a shithole. This was when Barack Obama was president of the United States. And while we were once driving through a struggling neighborhood in Chicago, he commented that only black people could live that way. And he told me that black people would never vote for him because they were too stupid. And yet, I continued to work for him.
Est-ce que vous pensez que Cohen invente ça? Que Cohen a inventé ça pour rendre le président raciste? Vous voyez, avec tout ce qu'il a fait, les décisions du mur, ce qu'il traite, la façon qu'il traite les Mexicains, vous le dites, vous prenez les liens, vous les connectez. Vous prenez les virgules, vous les mettez ensemble. Vous mettez une feuille par-dessus l'autre et vous regardez si ça concorde. Aussi simple que ça. La description que Cohen a fait aujourd'hui du président, si le moindrement vous suivez les nouvelles et vous suivez le président, est parfaite. C'est ce qu'on comprend de cet homme-là. Bon, je ne parle pas de ses politiques économiques, s'il a aidé à faire ci, à faire ça. Je parle du caractère, du personnage. Est-ce qu'il est sociopathe ou pas? Si vous avez regardé sa façon d'agir, sa façon de répondre, sa façon frénésique de tweeter, d'envoyer chier tout le monde et d'essayer de démolir les gens qui ne l'aiment pas ou qui disent le contraire de lui. C'est clair que ce que dit aujourd'hui notre ami Cohen semble, du moins, vrai. Une représentante démocrate a bien parlé parce que maintenant on vient à ce qui se passe aujourd'hui. C'est dégueulasse qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Le responsable républicain, donc il y a un responsable officiel qui est républicain, c'est le représentant de l'Ohio, Jim Jordan. Si vous regardez au moins 5 secondes de la demande, pas de la demande, mais de la séance aujourd'hui, regardez Jim Jordan, t'as le goût de lui péter la gueule. Pas parce que je suis pas d'accord. Je suis pas en train de dire que Cohen, c'est l'être humain de l'année ou que Trump est le trou de cul de l'année. J'ai ma propre opinion. La façon que Jim Jordan est en train de poser des questions n'a aucun lien avec Trump. Il y a une représentante démocrate qui a dit quelque chose de très intéressant. Et je le répète, je ne suis pas démocrate. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, écoutez... Non, c'est un homme qui a dit ça. Je ne me rappelle plus lequel représentant, mais c'est un homme démocrate. Il dit, écoutez, tous les grands procès aux États-Unis, tous les grands procès sur la mafia, les raisons pour lesquelles on a réussi à démanteler les Gambino, réussi à démanteler des gens comme Al Capone, c'est principalement et souvent fait par des témoins qui ont viré de bord. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, les républicains, que c'est impossible pour quelqu'un de virer de bord et de pouvoir dire la vérité? Est-ce que tous les procès de l'histoire de l'humanité sur la mafia, les groupes organisés, devraient être remis à zéro, devraient être revus? Parce qu'il est impossible pour quelqu'un qui a fait des crimes de finalement arriver, de se repentir et de dire la vérité pour que ça se termine? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Effectivement, c'est ridicule. Je veux dire, est-ce que c'est un témoin peut changer d'idée et décider de dire la vérité pour différentes raisons, pour avoir moins de prison, pour avoir de la publicité par après, ou juste pour conscience. Il y a différentes raisons de le faire, mais c'est très plausible, et c'est arrivé des milliers de fois dans l'histoire de l'humanité, que quelqu'un se vire de bord et dit la vérité. Il faut des raisons. Cohen a à peu près 1000 raisons de la vérité. Premièrement, il se fait littéralement jeter par le président lorsqu'il a vu qu'il ne répondait plus à ses demandes. Il s'est fait démolir par lui jusqu'à hier soir. Je ne sais pas si vous le savez, on est quasiment dans un film de mafia avec la présidence américaine. On est quasiment dans un épisode du Parrain. C'est impressionnant. Hier soir, un député républicain envoie un tweet à Cohen que tout le monde peut lire. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet qu'il a envoyé. Ça dit « Hey Michael Cohen, je ne sais pas si ta femme aimerait savoir la vérité sur tes petites copines, puis surtout ton beau-père, s'il connaît la vérité, ta femme va sûrement commencer à te tromper quand tu vas rentrer en prison demain si tu parles. » Wow! Il y a tellement de merde depuis que Trump est là qu'on n'en fait plus de cas. C'est une menace directe, live, à quelqu'un qui va témoigner le lendemain. C'est un ami de Donald Trump qui est républicain. Wow! Mais voyons donc! C'est juste ça, c'est exceptionnellement débile. Donc on en revient aux républicains. Il n'y a pas une question des républicains qui a été sur Donald Trump. Ils font juste essayer de démolir Cohen à chaque fois qu'ils ont 5 minutes. À chaque fois, c'est de lui dire que c'est un menteur, qui ne dira jamais la vérité. Je reviens à poser une question à mes amis républicains quand je suis d'Alliance républicaine. Vous ne voulez pas savoir la vérité sur le président? Ça ne vous inquiète pas de savoir qui est cet homme-là? Vous êtes plus inquiété à savoir si notre ami Cohen dit la vérité ou pas pour les 175 prochaines années? C'est ça qui vous intéresse? C'est ça qui est important pour vous, dans le fond. Hein? C'est de savoir si Cohen dit la vérité pour toujours et de démolir le personnage que Cohen... Cet homme-là a de l'info. N'importe qui est proche de quelqu'un. Quelqu'un, mon exemple, mon ex-femme, Karen. Si j'étais connu, puis les gens diraient, hey, « Karen, viens ici. On a des questions à poser. » Puis qu'il y a un côté de la salle qui n'arrêtait pas de dire, hey, « Karen, toi, t'as fait ça. » Hey, elle me connaît. Elle peut avoir ses fautes, ses erreurs, mais elle me connaît. Profitez-en donc pour poser des questions. Je dirais, hey, tu le connais, toi? Il est sûr qu'as-tu tendance à faire ça? As-tu tendance à faire ça? Elle me connaît. Cohen connaît Trump. Il le connaît profondément. Et aucune question n'est posée par rapport à ça. C'est un moment exceptionnel. Je crois que Cohen, moi, je le crois. Je vous le dis, je crois Cohen. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est intuitif. Je suis quelqu'un qui a analysé, qui écoute énormément. Je ne dis pas de croire ce que je crois. Je vous dis que je vous donne mon opinion. Je crois Cohen aujourd'hui. Cet homme-là en a plein le cul. Cet homme-là a donné son allégeance. Est un béni oui-oui d'un homme manipulateur, d'un psychopathe, d'un sociopathe. Et il s'est écœuré en disant « J'allais perdre ma vie pour ce gars-là. » C'est arrivé des milliards de fois dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui ont dit hey, « Là, je me réveille, voyons donc. » Il va tout perdre à cause de cette personne-là. Il manipule tellement tout le monde qu'il me fait faire à peu près le trois quarts des conneries. Oui, je l'ai fait, mais écoute, j'aurais jamais viré, au pire que ça, j'aurais jamais viré comme ça sans ce gars-là. Quel malade mental! Je veux dire, c'est un moment important parce que les Américains, c'est sûr qu'après ça, les démocrates vont commencer à avancer un peu plus dans l'impeachment. Qu'ils réussissent ou pas à tasser tout de suite le président américain, c'est une chose. Je pense que c'est essentiel que les Américains, surtout quelques républicains, parce qu'il y a une majorité républicaine qui ne veut rien savoir, qui pense qu'il y a une conspiration internationale contre Trump. Il n'y a pas de conspiration internationale contre Trump. Trump est un sociopathe. C'est un sociopathe. Il est dangereux. Je ne suis pas, en plus, quelqu'un qui... Je n'étais pas comme, « Ah, j'aime Obama, j'haïs ici, j'haïs pas. » J'adorais George Bush, malgré ses forces et ses faiblesses. J'ai aimé Ronald Reagan. J'ai aimé Obama pour certaines choses. Non, ça n'a pas de lien. Trump est un sociopathe. C'est un malade mental qui, pour son propre bénéfice, ferait n'importe quoi. C'est un menteur pathologique. C'est un manipulateur pathologique. Il est dangereux. Michael Cohen a essayé aujourd'hui, et va manger de la merde peut-être pour les 100 prochaines années, de venir dire qui il connaissait depuis 10 ans en disant « Faites attention à cet homme-là, c'est un malade mental. » Il est dangereux. Et j'en ai marre de manger de la marde pour cet homme dangereux-là. Et les républicains, comme Jim Jordan, d'essayer juste de dire « Oui, effectivement, il y a des problèmes de crédibilité avec Cohen. On aurait pu passer 5 minutes là-dessus. » Après, on aurait pu essayer de comprendre ou de connaître qui était Donald Trump. Ça vous inquiète pas? Il est en train de faire un deal là, avec quelqu'un au Vietnam. Il est au Vietnam, là, en train de faire un deal. C'est énorme ce qu'il joue. Et j'espère au moins que la petite partie des républicains nécessaires pour l'élection va se réveiller pour 2020. Cet homme-là, malgré ses forces financières du pays, malgré ses idées, des fois, quelqu'un parle de bonnes idées en étant un malade mental. Le problème étant que cet homme-là a beaucoup plus de dangers et de torts à offrir aux Américains que de bonnes choses. Et c'est commencé depuis 2016. C'est un danger public, une personne qui est tellement égocentrique et qui fait tout ça uniquement pour lui. Qui fait ça uniquement pour sa propre personne, qui fait ça uniquement pour le bénéfice que ça va lui rapporter. Et vous allez me dire, beaucoup de monde est comme ça. Oui, mais pas à ce point-là. On a pogné le jackpot, la gang. Vous avez pogné, là, parlez à un psychiatre qui analyse Donald Trump, vous avez pogné le sommet du sociopathe. Là. Les limites dans sa tête, les choses que cet homme-là ne ferait pas pour arriver à ses fins, sont, ma foi, freaking minimes. Donc, ça va se continuer jusqu'à 8-9 heures ce soir. Ce ne sera pas la fin de Trump après ça. Mais je vous le dis, ça vaut la peine de regarder ça pour aller chercher une bonne idée de qui est Donald Trump, de se dire, c'est qui ce gars-là? C'est qui le dude? T'sais, je veux dire, vous allez avoir une bonne idée de qui c'est. Et de toute façon, vous ne serez pas surpris par rapport à ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur l'histoire de Cohen. Vous pouvez faire votre propre, aller lire, faire ce que vous en voulez. Si vous me faites confiance, du moins, puis vous avez une certaine, tu sais, vous avez des émissions que vous avez écoutées de moi, vous voyez un peu comment je pense, le temps que je prends à analyser les choses. J'ai déjà dit, puis je le pense, Donald Trump a amené une grande chose dans l'histoire américaine, c'est de montrer aux médias qu'on pouvait s'exprimer autrement qu'au travers eux. Donc, ça leur a fait peur un peu, et ça, c'est génial que Donald Trump ait fait ça. Génial. Par la suite, ça s'est gâté. Le sociopathe est sorti, et le moindrement que vous connaissez le cerveau, vous restez pas jamais, je vous le conseille, restez jamais autour d'un sociopathe, OK? Ça va freaking mal finir. Next news. Ben, la besoin de mon son. Je sais pas si vous l'entendez bien, ça a comme sorti du cul. Ça arrive des fois. On va essayer de recommencer, voir si ça marche. Pokémon Go. Ça, c'est un petit doute que je l'ai fait entendre hier, je pense. Je fais un lien avec une nouvelle Internet. Je vous l'ai dit récemment, j'ai fait un épisode sur le meme. J'ai pris le temps de faire une heure sur le meme. Pourquoi? C'est pas juste une mode, les memes, donc sur Internet, la façon de rire des jeunes, c'est pas une mode. C'est pas quelque chose qui va passer, c'est pas une nouvelle banale. C'est un changement sociétaire. C'est leur façon de rire, leur façon de fonctionner. C'est énorme. Ça en dit long sur qui ils sont, où ils s'en vont. Et là, il y a un mime, encore une fois, qui fesse dans le dash. Il y en a des tonnes. Celui-là, puis c'est arrivé une couple de fois. Celui-là, il s'appelle Momo. Momo Challenge. Là, il est énorme. Tout le monde en parle, le monde capote. Les parents se réveillent en disant, les parents qui parlent. Tu sais, les enfants, les parents qui mettent du pain sur la table à leurs enfants, qui ont une belle auto, une belle maison. Mais de qui les enfants passent leur vie dans le sous-sol puis ne parlent jamais. Puis un jour, tu vois qu'il y a un problème avec l'enfant, puis tu es aux nouvelles disant, j'ai de tout donné. Puis tout le monde, effectivement, mon Dieu, il avait été bien habillé, une belle maison, des parents gentils. Ce n'est pas la vie. C'est pas comme ça que tu t'occupes d'un enfant, OK? Ce n'est pas en lui donnant tout ce qu'il a besoin que tu t'en occupes. C'est en lui donnant aussi l'attention émotive et en lui parlant, en le comprenant, en l'aimant autrement qu'en lui donnant ce qu'il a besoin. C'est aussi un complément aussi même important que le reste, OK? Donc, les gens, il y a des parents qui se réveillent aujourd'hui, ils disent quoi, Momo Challenge? Parce qu'effectivement, c'est weird. Donc, le Momo Challenge, ceux qui ne le savent pas, ça a commencé en 2016 d'un mime. Il y a une compagnie qui a fait une espèce de poupée vraiment dégueulasse, OK? Si vous écrivez Momo Challenge, l'espèce de patente avec une grosse bouche, on dirait une mopette, mais version Satan. C'est elle, Momo là, Challenge, OK? Une compagnie qui avait fait ça, puis qui avait fait par hasard un post en disant, tu sais, imagine si tu appelles, puis sur WhatsApp, parce que sur WhatsApp, tu peux voir la personne avec qui tu parles, si tu veux, comme un peu sur Facebook, tout ça. T'appelles, puis paf, c'est ça qui apparaît dans la face. Imagine là, ah, what the fuck. C'est comme ça que ça a commencé, Momo. C'est devenu un challenge assez inquiétant. Pas parce que ça doit marcher, parce que les jeunes ne sont pas des cons. Il y a une minorité, malheureusement, qui embarque et qui ne réalise pas qu'est-ce que c'est. Mais les jeunes comprennent un peu pour ce que c'est, mais ça donne un peu l'idée de la philosophie d'Internet, puis de ce qui se passe là-dessus, puis de la dégueulasserie qui est en train de se passer là-dessus, puis l'espèce de brainwashing, ou du moins le jeu que les gens font avec nos kids. Le Momo Challenge, dans le fond, c'est que... Puis là, aujourd'hui, tout le monde en parle parce que le gouvernement dit « Faites attention, il y a des gens qui utilisent ça pour voler de l'information privée aux gens. » Parce que ce qu'il faut que tu fasses, dans le fond, c'est que tu acceptes, tu t'ajoutes un numéro sur WhatsApp. WhatsApp, vous connaissez pas ça, c'est un outil de communication que les jeunes utilisent à travers le monde, beaucoup plus que Facebook pour faire des vidéos, mais pour talker. Les gens ne parlent plus vraiment au cellulaire, ils parlent par WhatsApp. Okay? C'est comme ça que ça marche. C'est énorme, WhatsApp, surtout en Asie. Donc, le jeu, le Momo Challenge, c'est d'accepter le numéro en question et d'envoyer des photos dégueulasses, des photos épeurantes à un contact par hasard. Pourquoi? Dans quel but? Le but du Momo Challenge, c'est que la personne s'automutile ou se suicide. Vous allez me dire, ouais, mais là, c'est... Non, il n'y en a pas eu des millions qui sont suicidés ou mutilés à cause de ça. Mais voyez-vous l'angle dans lequel c'est? On parle d'enfants de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans majoritairement. What the fuck? Tu sais, je veux dire, le but, c'est que de faire que quelqu'un s'automutile ou se suicide. Donc, ils expliquent effectivement que, ben, on a toujours aimé ça. Vous vous rappelez qu'on était jeunes, on aime le gore, on aime les peurs, hein? On veut voir des films d'horreur quand on n'a pas le droit. Il y a des jeux présentement les plus populaires, qui ont été hyper populaires chez les jeunes. J'ai des choses comme Five Nights at Freddy's. Si vous ne connaissez pas ça, c'est que tu te promènes avec des... C'est vraiment bizarre. Tu regardes ça par première fois, tu te dis, comment ça, les jeunes jouent à ça? Tu es responsable de sécurité d'un building, tu peux juste gérer les caméras vidéo. Là. Tu peux même pas te promener dans le building, tu gères les caméras vidéo. Puis il y a un bonhomme qui s'appelle Freddy, qui est une espèce de teddy bear satanique. Puis lui, il faut pas qu'il te voie. Faut pas que tu le vois dans le fond, durant la nuit. Faut tant que tu te sauves ou à travers les caméras. En tout cas, c'est une espèce de jeu épeurant. Les kids aiment ça avoir peur, comme on aimait avoir peur dans le temps. Il y a eu Slenderman, l'espèce de... c'est un mime qui a commencé. Quelqu'un qui a fait un dessin d'un homme très long qui vit dans la forêt. C'est rendu avec des films pis rien à faire. Les gens aiment avoir peur. C'est normal, on était comme ça. Tout le monde aime avoir peur. C'est un feeling. Ça crée quelque chose dans notre cerveau, puis on aime ça. Momo était peurante, elle est vraiment dégueulasse. Mais là, on parle d'inciter les autres dans le jeu à communiquer, à envoyer tellement de choses dégueulasses que les personnes ont peur, les personnes, et comprennent qu'ils doivent se mutiler ou le point culminant était que la personne n'en peut plus, donc se suicide. C'est drôle, hein, comme jeu. Nice. C'est bien. Félicitations, la gang. C'est comment je peux dire ça? C'est le fun, c'est intéressant, ça démontre quoi? Une profondeur dans notre jeunesse? Je sais pas, là, mais c'est pas drôle, OK? C'est pas... Encore une fois, je ne sais pas que votre kid va se suicider à cause que... Il sait très bien que c'est un jeu. Il y a peut-être un minime, malheureusement, tristement, une minorité qui ne comprennent pas et qui vont le prendre pour du cash, toujours comme ça, dans tous les phénomènes de l'histoire. Mais en majorité, ils savent que c'est une blague et que c'est juste pour avoir peur. Là, il y a des gens, premièrement, qui, en ajoutant des numéros, ont accès à vos enfants. Donc, si ça ne vous fait pas peur que les parents puissent... que n'importe qui ait accès à vos enfants, qui est directement dans son compte WhatsApp, puis l'enfant ne vous le dira pas, lui envoie des photos épeurantes pour que votre enfant se suicide ou se mutile, ou on ne sait pas quoi d'autre fuckerie lui dit. Donc, le Momo Challenge, je vous dis, moi, là, me suis pas à capoter comme une gang de frustrés, en disant qu'il faut couper Internet ou que c'est la fin des temps. Oui, c'est dégueulasse. Les jeunes sont dans un monde particulier. Il y a toujours eu de la méchanceté sur Terre, toujours eu de la marde. Là, ils ont accès rapidement à vos enfants, ils ont accès rapidement à eux. Les enfants, eux, ils voient pas de problème parce qu'ils sont élevés dans un monde comme ça. La clé, c'est pas compliqué, Simonac, c'est de parler tous les jours à vos enfants. Pas de dire assis-toi là. Dis-moi ce que t'aimes. Dis-moi ce que c'est l'Internet. Tu sais, les enfants n'aiment pas se faire parler comme des cons. Comme je parle à mon fils Antoine, il me raconte toutes les mimes, il me raconte ce qui se passe sur Internet. Quand il y a un nouveau mime, il vient parce qu'il sait que je le respecte puis que c'est un univers que je juge pas. J'ai mon opinion et des fois, je dis « Antoine, si je suis pas d'accord avec ça, je veux pas que tu fasses ça. » Il le sait que par moment, je vais le dire puis je vais intervenir. Mais j'ai aussi une grande ouverture, ça m'intéresse. Quand il vient me voir puis il me dit « Hey, Pat, tu vis ça? C'est assez fucké, le monde font ça maintenant sur Internet. » Effectivement, c'est fucké, dude. Tu sais, il veut pas, il vient me le montrer, mais je sais qu'en même temps, il cherche à savoir ce que j'en pense. Si vous n'avez pas cette relation-là avec vos ados, il y a un problème. C'est triste, mais il y a un problème, je vous le dis, parce qu'ils vivent des choses que vous ne savez pas. Et sur Internet, ils s'en passent en calvaire, des affaires. Okay? Ils s'en passent des weird, une puis l'autre. C'est un milieu assez fucké, présentement, sur Terre. C'est un milieu assez fucké. Donc, c'est ça. Si vous entendez parler du Momo Challenge, écrivez Momo, allez voir sa gueule de marde. J'ai mis un dessin qui a été fait d'elle, mais c'est pas celui-là qui share. Moi, j'ai mis un dessin qui a été refait de la madame en question. Mais la madame, je sais même pas c'est quoi. Là. C'est comme une mopette satanée. Mais écrivez Momo Challenge, allez voir. C'est vraiment pas beau comme patente. Puis l'histoire derrière ça, en plus, est dégueulasse. J'aime même pas l'histoire derrière ça. Mais c'est le Momo Challenge. Fait que vous savez maintenant qu'est-ce qui est le Momo Challenge. Je sais pas, je vais le réécouter tantôt, mais j'ai la misère avec mon son, je pense. Anyway, c'est Tunak Tunak, mon ami Tunak Tunak. Je reviens là-dessus, c'est tannant, mais c'est un show de nouvelles. Ça continue à chier au Pakistan et en Inde. On en a parlé, 2-3 shows du Cachemire, vous vous rappelez. Aujourd'hui, il y a des avions indiennes qui ont été abattus par les forces pakistanaises. Fini plus, là. Ça escalade. C'est important de checker, je vous le dis, parce qu'on se rappelle, c'est pas deux pays qui se lancent des rushs, là. C'est deux puissances nucléaires. Les deux se visent avec des armes nucléaires. Je le répète encore une fois, c'est pas une raison pour laquelle il y aura une guerre mondiale. Ceux qui pensent que c'est peut-être le début d'une autre guerre mondiale, non. Parce qu'il n'y a personne qui back les deux pays. Là. J'ai dit, il n'y a pas de force mondiale qui est derrière un, derrière l'autre. Tout le monde les regarde un peu en disant, sacrément arrêté. Calmez-vous. Là. Tout le monde est un peu d'accord en disant, calmez-vous, calvaire. Voyons donc. Ça n'allait pas finir par vous lancer une roquette parce qu'il y a beaucoup de monde en Inde, beaucoup de monde au Pakistan. Ça serait pas drôle qu'il y ait une arme nucléaire qui parte à Bombay là, ou à New Delhi. Tu sais, vous me dites, t'as pas exagéré pas, là, why, là? Je veux dire, à quel honneur, là, abattre deux avions, ça sent bien, ça escalade, puis c'est comme ça que toutes les guerres de la Terre ont commencé. Fait qu'il faut quand même garder un œil sur le putain de Cachemire, puis de se dire, tu sais, c'est pas le fun, là. C'est pas le fun. Donc, c'est une mini-patente, mais je pense du moins que c'est important qu'on le converse. Ça, c'est une parenthèse. Faut juste mettez ça du coin de l'œil, regardez tout le conflit, puis tu sais, ça peut escalader. J'ai vu aujourd'hui des news, puis le monde s'inquiète, puis je suis d'accord, de s'inquiéter. Amazon, notre ami Amazon, vous allez voir sur la photo que j'ai mis, il y a comme des colis Amazon en arrière. Amazon contrôle 50% du commerce en ligne. 50% du commerce en ligne. Fuck. Tu sais, moi, je suis capitaliste, okay? Je suis pour le succès. Je suis content que quelqu'un fasse quelque chose et que ça marche. Et que si ça marche beaucoup, ben c'est content beaucoup. Comprenez-vous? J'aime la liberté de faire du commerce, ainsi de suite. Avec le temps, quand j'ai vieilli, puis lu et écouté certaines choses, j'ai réalisé que il y a aussi une très grande importance à contrôler le marché à un certain point parce que si ça devient totalitaire, c'est la fin du monde, les gens se font fourrer. C'est-à-dire que si on regarde Amazon puis il vient à 20% du marché, 30% du marché, 50% du marché, 99% du marché, le moment où une compagnie privée avec des buts lucratifs, les buts de uniquement faire du cash, contrôle le marché, c'est pas le fun pour la population, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils contrôlent le marché. Ils peuvent décider du jour au lendemain de changer des choses, d'allumer des prix, de ne pas shipper à certaines personnes. Les gens, l'être humain étant ainsi fait, quand il contrôle quelque chose, il devient une pain in the ass. Okay? Tu ne peux pas demander à quelque chose de privé, même souvent, malheureusement, on ne peut pas demander au gouvernement, mais tu ne peux pas demander à personne, dans le fond, à grand-chose sur Terre, d'être totalitaire dans quelque chose. Okay? L'être humain n'est pas fait pour ça. On l'a démontré à travers les âges, on est à chier au niveau totalitaire. Chaque fois qu'on a le contrôle complet, on fait de la merde. Pas compliqué, là? 99% des êtres humains, c'est ce qu'on fait. Si vous pensez que vous seriez différent, le pouvoir absolu qu'auront absolument. Okay? C'est peut-être pas le seul qui a vécu ça, pas le seul qui pensait qu'avec le pouvoir, vous seriez nice. Le pouvoir absolu qu'auront absolument. C'est un dicton qui est fucking vrai. Donc, ils sont rendus à 50 % du marché Internet, c'est gros, là. Il y a du monde qui commence à paniquer, il y a du monde qui commence à dire, ben là, sérieux? Il me semble que c'est beaucoup, là. Tu sais, je sais pas vous autres, là, mais il me semble que c'est gros, là. Il me semble que 50 % 60 %, c'est, tu sais, ouais, voyons donc, 50 % du marché en ligne du commerce électronique. C'est des trilliards, ça n'a pas de sens, ça, là. C'est énorme, mais ça grossit. Ils prennent de plus en plus de place, donc ils sont victimes de leur succès. Les gens commencent à dire, ben là, il faut faire quelque chose. Et tiens, je vous le dis, je répète, je suis républicain, je suis autonomiste, je ne suis pas pour l'intervention de l'État. Il y a certains moments où, effectivement, avec mes études, ayant compris certaines choses, c'est pour le bien de la société, il faut faire attention, là. Parce que c'est à watcher. Puis les gens commencent à watcher, puis commencent à parler d'Amazon, pas pour leur taper dessus et dire que c'est des sales capitalistes. Rapport. Félicitations, Jeff Bezos, d'avoir créé Amazon. Félicitations, Amazon, d'être ce que vous êtes. Vous êtes un fleuron, c'est une belle chose. Je suis fier de vous, Amazon. Et là, c'est beaucoup, là. Là, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de compétition. Il y a Jet qui a essayé un bout de temps de faire quelque chose. Jet qui a été une espèce d'Amazon, mais qui a été plus tard, donc qui a été créé de toutes pièces par un fonds d'investissement. Ils ont dit, on crée une business pour faire compétition. Il y a tellement de place. Quand vous regardez ça, vous dites, écoutez, il y a une business qui a 50 % d'un marché de trilliards. Il y a de la place pour d'autres joueurs, c'est évident. Il va y avoir d'autres joueurs éventuels. Ça ne sera pas comme ça à vie. Amazon ne sera pas comme ça. Il va y avoir des joueurs qui vont rentrer dans le Nash. Walmart roule pas mal. Costco pourrait rouler en ligne. Mais ils ne sont pas aussi forts qu'Amazon. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Jet a essayé, ça a planté. Mais là, la plupart qui essayent plantent parce qu'Amazon est beaucoup trop fort. Donc, il y a un petit quelque chose à faire. Là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe éventuellement pour protéger le citoyen américain et mondial en disant, écoutez, c'est beaucoup. Là. Ils peuvent, on ne peut pas laisser entre les mains d'une entreprise privée le contrôle aussi grand de quelque chose. C'est risqué, c'est dangereux. Donc, c'est ce qui se passe. On va voir ce qui va arriver avec Amazon, je ne sais pas. Mais je vous dis juste que c'est pas mal ça. Donc, aujourd'hui, c'était Cohen. Le but de l'émission en particulier, je ne voulais pas faire une émission spéciale cette année, mais le but, c'était parler de Cohen, principalement, de donner mon idée, mon opinion sur Cohen. Faites votre propre opinion. Mais pour en revenir puis en terminant ça, sachant que c'est très important ce qui se passe aujourd'hui, c'est majeur. C'est majeur. C'est quelqu'un de très près de quelqu'un qui nous concerne, quelqu'un qui nous dirige, quelqu'un qui prend des décisions quasiment pour la planète présentement. C'est quelqu'un qui est très près de lui, qui va nous dire « Hey, voici qui il est. » Et j'ai tendance à croire cette personne-là pour les raisons que je vous ai dit. Donc j'espère que les gens vont prendre ce que pour ce que c'est, commencer à faire attention et à voir un peu le sociopathe en lui et de lire un peu ce que... Allez lire un peu sur un sociopathe, qu'est-ce que ça peut faire. Lisez sur un sociopathe. Après ça, regardez qui dirige le pays. Si ça ne vous fait pas peur, vous êtes freaking solide, vous êtes prêt pour le Momo Challenge. À demain tout le monde. Hey, je vous aime gros comme... Je peux pas dire comme chum, je le dis tout le temps. Je vous aime gros comme quoi? Il faut que je trouve un mec que ça finisse. Je vous aime gros comme les républicains sont frustrés sur Cohen. Ouais, bye. Ah, j'ai réglé le son. Excusez-moi, c'était ça le problème du son. À demain.